Pour le livre 7, qui est le dernier écrit de la main de Jules César, j'ai eu envie d'essayer une autre traduction, car j'ai remarqué d'agaçantes erreurs typographiques dans la publication de la traduction Nisar dans les documents Wikisource utilisés jusqu'à maintenant. En plus, pour faire suite à une critique que j'ai reçue sur le site littératureaudio.com, cette nouvelle traduction mentionne les prénoms au complet des personnages historiques impliqués dans ce récit militaire. On verra bien, ou plutôt on entendra bien, si cette version est meilleure. Elle a été publiée en 1926 par la société d'édition parisienne Les Belles Lettres. Elle a été écrite par le latiniste Léopold Albert Constance, qui a vécu de 1891 à 1936. Il a été professeur à la Faculté des Lettres de Paris à partir de 1929. Sa traduction est disponible sur le site internet Corpus Scriptorum Latinorum. La date de cette lecture est le 22 juin 2009. Donc, voici La Guerre des Gaules, livre 7, écrit par Jules César et traduit en 1926 par Léopold Albert Constance. 1. Voyant la Gaule tranquille, César, ainsi qu'il l'avait décidé, part pour l'Italie afin d'y tenir ses assises. Là, il apprend le meurtre de Publius Clodius, et ayant eu connaissance du Senatus Consult qui ordonnait l'enrôlement en masse de la jeunesse d'Italie, il entreprend une levée dans toute sa province. La nouvelle de ces événements parvient vite en Transalpine. Les Gaulois y ajoutent de leur propre chef, inventent et répandent une nouvelle qui leur paraissait être le complément naturel de la première. César était retenu par les troubles de Rome, et il ne lui était pas possible de se rendre à l'armée quand la lutte des partis était si vive. L'occasion excite ces hommes qui déjà ne supportaient qu'avec impatience d'être soumis au peuple romain. Ils commencent à faire des projets de guerre avec plus de liberté et de hardiesse. Les chefs gaulois s'entendent pour tenir des conciliabules dans les lieux écartés, au milieu des bois, là. Ils se plaignent de la mort d'Aco. Ils montrent que ce sort peut devenir le leur. Ils déplorent le malheur commun des Gaulois en promettant toutes sortes de récompenses. Ils demandent instamment qu'on entre en guerre et qu'on joue sa vie pour rendre à la Gaule sa liberté. « La première chose, disent-ils, à laquelle on doit aviser, c'est de couper César de son armée avant que leur projet clandestin ne soit divulgué. » C'est chose facile car les légions n'osent pas, en l'absence du chef, sortir de leur quartier d'hiver. Et, de son côté, le chef, sans escorte, ne peut rejoindre ses légions. Et puis, mieux vaut mourir en combattant que de ne pas recouvrer l'antique honneur militaire et la liberté que les aïeux ont légués. 2. Après maintes discussions sur ces projets, les Carnutes déclarent que pour le salut de la patrie, il n'est pas de danger qu'ils n'acceptent, et ils promettent d'être au premier rang des révoltés. Puisque pour le moment, on ne peut se garantir mutuellement par un échange d'otages, car cela risquerait d'ébruiter leurs projets, que du moins, disent-ils, on s'engage par des serments solennels autour des étendards réunis en faisceaux, cérémonie qui noue chez eux le plus sacré des liens, à ne pas les abandonner une fois les hostilités commencées. On félicite à l'envi les Carnutes. Le serment est prêté par toute l'assistance, et on se sépare après avoir fixé la date du soulèvement. 3. Quand arrive le jour convenu, les Carnutes, entraînés par Cotuatos et Conconetodumnos, hommes dont on ne pouvait rien attendre que des folies, se jette à un signal donné dans Sénaboum, massacre les citoyens romains qui s'y étaient établis pour faire du commerce, mettent leurs biens au pillage. Parmi eux était Caius Fufius Cita, honorable chevalier romain que César avait chargé de l'intendance des vivres. La nouvelle parvient vite à toutes les cités de la Gaule. En effet, quand il arrive quelque chose d'important, quand un grand événement se produit, les Gaulois en clament la nouvelle à travers la campagne dans les différentes directions. De proche en proche, on la recueille et on la transmet. Ainsi firent-ils alors. Et ce qui s'était passé à Sénaboum, au lever du jour, fut connu avant la fin de la première veille chez les Arvernes, à une distance d'environ 160 milles. 4. L'exemple y fut suivi. Vercingétorix, fils de Celtilos, Arverne, jeune homme qui était parmi les plus puissants du pays, dont le père avait eu l'empire de la Gaule et avait été tué par ses compatriotes parce qu'il aspirait à la royauté, convoqua ses clients et n'eut pas de peine à les enflammer. Quand on connaît son dessein, on court aux armes. Gobanitio, son oncle et les autres chefs, qui n'étaient pas d'avis de tenter la chance de cette entreprise, l'empêchent d'agir. On le chasse de la ville forte de Gergovie. Pourtant, il ne renonce point et il enrôle dans la campagne des miséreux et des gens sans aveu. Après avoir réuni cette troupe, il convertit à sa cause tous ceux de ses compatriotes qu'il rencontre. Il les exhorte à prendre les armes pour la liberté de la Gaule. Il rassemble de grandes forces et chasse ses adversaires qui, peu de jours auparavant, l'avait chassé lui-même. Ses partisans le proclament roi. Il envoie des ambassades à tous les peuples. Il les supplie de rester fidèles à la parole jurée. Il ne lui faut pas longtemps pour avoir à ses côtés les Sénons, les Parisii, les Pictons, les Cadurques, les Turons, les Aulerques, les Lémovis, les Andes, et tous les autres peuples qui touchent à l'océan. À l'unanimité, on lui confère le commandement suprême. Investi de ses pouvoirs, il exige de tous ses peuples des otages. Il ordonne qu'un nombre déterminé de soldats lui soit amené sans délai. Il fixe quelle quantité d'armes chaque cité doit fabriquer et avant quelle date. Il donne un soin particulier à la cavalerie. À la plus grande activité, il joint une sévérité extrême dans l'exercice du commandement. La rigueur des châtiments rallie ceux qui hésitent. Pour une faute grave, c'est la mort par le feu et par toutes sortes de supplices. Pour une faute légère, il fait couper les oreilles au coupable ou lui crever un œil, et il le renvoie chez lui, afin qu'il serve d'exemple et que la sévérité du châtiment subit, frappe les autres de terreur. 5. Ayant par de telles cruautés rassemblé en peu de temps une armée, il envoie chez les Rutènes, avec une partie des troupes, le cadurque Lucteriosi, homme d'une rare intrépidité, et par lui-même chez les Bituriges. Ceux-ci, à son arrivée, envoient une ambassade aux Éduens, dont ils étaient les clients, pour leur demander de les aider à soutenir l'attaque des ennemis. Les Éduens, sur l'avis des légats que César avait laissés à l'armée, envoient au secours des Bituriges des cavaliers et des fantassins. Quand ceux-ci eurent atteint la Loire qui sépare les deux peuples, ils s'arrêtèrent, et au bout de peu de jours, ils s'en retournent sans avoir osé franchir le fleuve. Ils rapportent à nos légats que s'ils ont fait demi-tour, c'est qu'ils craignaient la perfidie des Bituriges, car ils ont appris que leur intention était de les envelopper, eux d'un côté, les Arvernes de l'autre, au cas où ils auraient passé le fleuve. Agirent-ils ainsi pour le motif qu'ils déclarèrent aux légats, ou obéissaient-ils à des pensées de trahison? N'ayant là-dessus aucune certitude, nous ne croyons pas devoir rien affirmer. Les voyant s'en aller, les Bituriges s'empressent de se joindre aux Arvernes. 6. Quand la nouvelle de ces événements parvint en Italie à César, celui-ci, voyant que désormais la situation intérieure, grâce à la fermeté de Pompée, s'était améliorée, partit pour la Gaule transalpine. Une fois arrivé, il se trouva dans un grand embarras. Comment parviendrait-il à rejoindre son armée? Si, en effet, il appelait les légions dans la province, il voyait qu'elles devraient, en chemin, livrer bataille sans lui. S'il allait vers elles, il se rendait compte que, dans les circonstances présentes, il ne pouvait sans imprudence confier sa vie à ceux-là même qui paraissaient tranquilles. 7. Cependant, Lucterios, le Cadurque, qui avait été envoyé chez les Rutènes, les gagne aux Arvernes. Il pousse chez les Nitiobroges et chez les Gabales, reçoit de chaque peuple des otages et, ayant réuni une forte troupe, entreprend d'envahir la province en direction de Narbonne. À cette nouvelle, César pensa qu'il devait, de préférence à tout autre plan, partir pour Narbonne. Il arrive, il rassure les courages ébranlés, place les détachements chez les Rutènes de la province, chez les Volques arécomiques, chez les Tolosates et autour de Narbonne, toute région qui confinait au territoire ennemi. Il ordonne qu'une partie des troupes de la province et les renforts qu'il a amenés d'Italie se concentrent chez les Helviens, qui touchent aux Arvernes. 8. Après avoir pris ses dispositions, comme déjà Lucterios arrêtait son mouvement et même reculait parce qu'il trouvait dangereux de s'aventurer au milieu de nos détachements, César part chez les Helviens. Les Cévennes, qui forment barrière entre les Helviens et les Arvernes, étaient en cette saison, à l'époque la plus rude de l'année, couvertes d'une neige très haute qui interdisait le passage. Néanmoins, les soldats fendent et écartent la neige sur une profondeur de 6 pieds et, le chemin ainsi frayé au prix des plus grandes fatigues pour les hommes, on débouche dans le pays des Arvernes. Cette arrivée inattendue les frappe de stupeur, car ils se croyaient protégés par les Cévennes, comme par un rempart, et jamais, à cette époque de l'année, on n'avait vu personne, fût-ce un voyageur isolé, pouvoir en pratiquer les sentiers. Alors César ordonne à ses cavaliers de rayonner le plus loin possible en terrorisant l'ennemi le plus qu'ils peuvent. Rapidement, par la rumeur publique, par des messagers, Vercingétorix apprend ce qui se passe. Tous les Arvernes, au comble de l'émotion, l'entourent, le pressent qu'ils pensent à défendre leurs biens, qu'ils ne laissent pas l'ennemi les piller entièrement, surtout quand, il le voyait bien, tout le poids de la guerre était pour eux. Cédant à leurs prières, ils lèvent le camp et quittent le pays des Bituriges pour se rendre chez les Arvernes. 9. Mais César ne resta que 2 jours sur place. Il avait prévu que Vercingétorix agirait effectivement de la sorte, sous prétexte d'aller chercher du renfort et de la cavalerie. Il quitte l'armée, laissant le commandement des troupes au jeune Brutus. Il lui recommande de faire des incursions de cavalerie de tous côtés et de les pousser le plus loin possible. Quant à lui, il tâchera de n'être pas absent plus de 3 jours. Les choses ainsi réglées, il se dirige à marche forcée vers Vienne, au grand étonnement de son escorte. Il y trouve de la cavalerie fraîche, qu'il y avait envoyée un certain temps auparavant, et, ne cessant de marcher ni jour ni nuit, se dirige à travers le pays des Éduins vers celui des Lingons, où deux légions hivernaient. Il voulait, au cas où les Éduins iraient jusqu'à tramer quelques plans contre sa vie, en prévenir par sa rapidité l'exécution. Une fois arrivé, il envoie des ordres aux autres légions et les concentre toutes sur un seul point avant que les Arvernes aient pu apprendre qu'il était là. Quand il connaît la situation, Vercingétorix à nouveau ramène son armée chez les Bituriges, puis quitte leur territoire et se dispose à assiéger Gorgobina, ville des Boïens. César les y avait établis après les avoir vaincus dans la bataille contre les Helvètes, et il les avait placés sous l'autorité des Éduins. 10. Cette manœuvre mettait César dans un grand embarras. S'il gardait ses légions dans leur quartier pendant le reste de l'hiver, il devait craindre que, ayant laissé écraser un peuple qui était tributaire des Éduins, la Gaule entière n'entrât en dissidence, puisqu'on verrait que ses amis ne trouvaient en lui aucune protection. S'il les faisait sortir prématurément, il devait craindre d'avoir à souffrir du côté du ravitaillement, par suite de la difficulté des transports. Il crut qu'il valait mieux, néanmoins, tout supporter, plutôt que de s'aliéner, en acceptant un tel affront, l'unanimité de ses partisans. Il invite donc les Éduins à lui fournir des vivres et se fait précéder chez les Boïens d'une ambassade qui annoncera sa venue et les exhortera à rester fidèles, à supporter vaillamment le choc de l'ennemi. Laissant à Agedincum deux légions et les bagages de toute l'armée, ils se mettent en route pour le pays des Boïens. 11. Le second jour, il arriva devant Velauno du Nom, ville des Sénons, voulant ne pas laisser d'ennemis derrière lui pour n'être pas gêné dans son ravitaillement. Il entreprit d'en faire le siège et en deux jours, il eut entouré d'un retranchement. Le troisième jour, la place envoya des parlementaires pour traiter de la reddition. Il ordonne qu'on livre les armes, qu'on amène les chevaux, qu'on fournisse 600 otages. Il laisse Caius Trébonius, son légat, pour terminer le règlement de cette affaire et part, car il désirait achever sa route au plus vite, se dirigeant vers Cenabum, ville des Carnutes. Ceux-ci, qui venaient à peine d'apprendre que Velauno du Nom était assiégé, pensant que l'affaire traînerait quelque temps, s'occupaient de rassembler des troupes pour la défense de Cenabum et se disposaient à les y envoyer. Mais en deux jours, César y fut. Il campe devant la ville et l'heure avancée lui interdisant de commencer l'attaque, il la remet au lendemain. Il ordonne à ses troupes de faire les préparatifs ordinaires en pareil cas et, comme il y avait sous les murs de la place un pont qui franchissait la Loire, craignant que les habitants ne prissent la fuite à la faveur de la nuit, il fait veiller deux légions sous les armes. Les gens de Cenabum, peu avant minuit, sortirent en silence de la ville et commencèrent de passer le fleuve. César, averti par ses éclaireurs, introduit, après avoir fait incendier les portes, les deux légions qu'il tenait prêtes et se rend maître de la place. Il s'en fallut d'un bien petit nombre que tous les ennemis ne fussent faits prisonniers, car l'étroitesse du pont et des chemins qui y conduisaient avaient bloqué cette multitude en fuite. César pille et brûle la ville, fait don du butin aux soldats, passe la Loire et arrive dans le pays des Bituriges. 12. Dès que Vercingétorix est informé de l'approche de César, il lève le siège de Gorgobina et se porte à sa rencontre. Celui-ci avait entrepris d'assiéger une ville des Bituriges, Noviodunum, qui se trouvait sur sa route. La place lui ayant envoyé des députés pour le supplier de pardonner et d'épargner la vie des habitants, César, soucieux d'achever sa tâche en allant vite, méthode qui lui avait valu la plupart de ses précédents succès, ordonne qu'on livre les armes, qu'on amène les chevaux, qu'on fournisse des otages. Déjà, une partie des otages avait été livrée et on procédait à l'exécution des autres clauses. Des centurions et quelques soldats avaient été introduits dans la place pour rassembler les armes et les chevaux, quand on aperçut au loin la cavalerie ennemie, qui précédait l'armée de Vercingétorix. À peine les assiégés l'eurent-ils vu et eurent-ils conçu l'espoir d'être secourus, qu'une clameur s'éleva et qu'on se mit à courir aux armes, à fermer les portes, à garnir les murailles. Les centurions qui étaient dans la ville, comprenant à l'attitude des Gaulois qu'il y avait quelque chose de changé dans leur disposition, mirent l'épée à la main, s'emparèrent des portes et ramenèrent leurs soldats au complet et sans blessure. 13. César fait sortir du camp sa cavalerie et engage la bataille. Puis, les siens étant en difficulté, il envoie à leur secours environ 400 Germains qu'il avait coutume, depuis le début de la guerre, d'avoir avec lui. Les Gaulois ne purent supporter leur charge. Ils furent mis en déroute et se replièrent sur le Gros, non sans avoir subi de lourdes pertes. Ce revers ramena les assiégés à leur premier sentiment. Pris de peur, ils arrêtèrent ceux qu'ils considéraient comme responsables du mouvement populaire, les amenèrent à César et firent leur soumission. Ayant terminé cette affaire, César partit pour Avaricum, qui était la ville la plus grande et la plus forte du pays des Bituriges et située dans une région très fertile. Il pensait que la prise de cette place lui soumettrait toute la nation des Bituriges. 14. Vercingétorix, après cette suite ininterrompue de revers essuyés à Velarnodunum, à Cenabum, à Noviodunum, convoque un conseil de guerre. Il démontre qu'il faut conduire les opérations tout autrement qu'on ne l'a fait jusqu'ici. Par tous les moyens, on devra viser à ce but, interdire aux Romains le fourrage et les approvisionnements. C'est chose facile car la cavalerie des Gaulois est très nombreuse et la saison est leur auxiliaire. Il n'y a pas d'herbe à couper, les ennemis devront donc se disperser pour chercher du foin dans les granges. Chaque jour, les cavaliers peuvent anéantir tous ces fourrageurs. Il y a plus quand on joue son existence. Les biens de fortune deviennent choses négligeables. Il faut incendier les villages et les fermes dans toute la zone que les Romains, autour de la route qu'ils suivent, paraissent pouvoir parcourir pour fourrager. Pour eux, ils ont tout en abondance, car les peuples sur le territoire desquels se fait la guerre les ravitaillent. Les Romains, au contraire, ou bien devront céder à la disette, ou bien s'exposeront à de graves dangers en s'avançant à une certaine distance de leur camp. Que d'ailleurs on les tue ou qu'on leur enlève leurs bagages, cela reviendra au même, car sans ces bagages, une armée ne peut faire campagne. Ce n'est pas tout. Il faut encore incendier les villes, que leurs murailles et leurs positions ne mettent pas à l'abri de tout danger, afin qu'elle ne serve pas d'asile aux déserteurs et qu'elle n'offre pas aux Romains l'occasion de se procurer des quantités de vivres et de faire du butin. Trouvent-ils ces mesures dures, cruelles? Ils doivent trouver bien plus dur encore que leurs enfants et leurs femmes soient emmenés en esclavage et qu'eux-mêmes soient égorgés, car c'est là le sort qui attend fatalement les vaincus. 15. D'un accord unanime, on approuve cet avis. En un seul jour, plus de 20 villes des Bituriges sont incendiées. On fait de même chez les autres peuples d'alentour. De tous côtés, on aperçoit des incendies. C'était pour tous une grande douleur, mais ils se consolaient par cette pensée que, la victoire étant presque une chose assurée, ils recouvreraient avant longtemps ce qu'ils avaient perdu. On délibère en conseil de guerre sur Avaricum. Veut-on brûler la ville ou la défendre? Les Bituriges se jettent aux pieds des chefs des diverses nations, suppliant qu'on ne les force point de mettre le feu de leurs mains à une ville qui est, ou peu s'en faut, la plus belle de toute la Gaule, qui est la force et l'ornement de leur pays. Il leur sera facile, vu sa position, de la défendre, car presque de tous côtés, elle est entourée par l'eau courante et le marais, et n'offre qu'un accès, qui est d'une extrême étroitesse. On cède à leur prière, Vercingétorix s'y était d'abord opposé, puis s'était laissé fléchir, ému par les supplications des chefs bituriges et par la commisération générale. On choisit pour la défense de la place les hommes qu'il faut. 16. Vercingétorix suit César à petites étapes et choisit pour son camp une position couverte par des marécages et des bois, à 16 000 pas d'Avaricum. Là, un service régulier de liaison lui permettait de connaître heure par heure les péripéties du siège et de transmettre ses ordres. Il guettait nos détachements qui allaient chercher du fourrage et du blé, et si, poussés par la nécessité, ils s'avançaient un peu trop loin, il les attaquait et leur causait des pertes sérieuses, bien qu'ils prissent toutes les précautions possibles, ne sortant pas à intervalles réguliers ni par les mêmes chemins. 17. César campa devant la ville du côté où les cours d'eau et les marais laissaient, comme nous l'avons dit, un étroit passage, et il entreprit de construire une terrasse, de faire avancer des mantelets, d'élever deux tours, car la nature du terrain interdisait la circonvallation. Pour le blé, il harcèle de demandes les Boïens et les Éduins. Ceux-ci, manquant de zèle, n'apportaient qu'une aide médiocre. Ceux-là manquaient de moyens, car ils ne formaient qu'un petit état de faibles ressources, et ils eurent au fait d'épuiser ce qu'ils possédaient. L'armée souffrait d'une grande disette, à cause de la pauvreté des Boïens, de la mauvaise volonté des Éduins, et parce qu'on avait mis le feu aux granges. Ce fut au point que, pendant de longs jours, les soldats manquèrent de pain et n'échappèrent aux horreurs de la famine que grâce à quelques bétails qu'on amena de lointains villages. Pourtant, dans cette situation, on ne leur entendit pas proférer une parole qui fût indigne de la majesté du peuple romain et de leur précédente victoire. Bien plus, comme César, visitant les travaux, adressait la parole à chaque légion et disait que si les privations leur étaient trop pénibles, ils renonceraient au siège. Ce fut un cri unanime pour le prier de n'en rien faire. Ils avaient pendant de longues années servi sous ses ordres sans subir aucun affront, sans jamais s'en aller en laissant inachevé ce qu'ils avaient entrepris. Ils considéreraient comme un déshonneur d'abandonner le siège commencé. Ils aimaient mieux tout souffrir plutôt que de ne pas venger les citoyens romains qui, à Cenabum, avaient été victimes de la perfidie des Gaulois. Ils exprimaient aux centurions et aux tribuns les mêmes sentiments, afin que César en fût informé par eux. 18. Déjà, les tours étaient proches du rempart quand César apprit par des prisonniers que Vercingétorix, n'ayant plus de fourrage, avait rapproché son camp d'Avaricum, qu'il avait pris en personne, le commandement de la cavalerie et de l'infanterie légère exercée à combattre parmi les cavaliers, et était parti pour dresser une embuscade à l'endroit où il pensait que les nôtres viendraient fourrager le lendemain. À cette nouvelle, César partit au milieu de la nuit en silence et parvint le matin au camp des ennemis. Mais leurs éclaireurs les avaient rapidement avertis de son approche. Ils cachèrent leurs chariots et leurs bagages dans l'épaisseur des forêts et rangèrent toutes leurs troupes sur un lieu élevé et découvert. Quand César l'apprit, il fit promptement rassembler les bagages et prendre la tenue de combat. 19. La position de l'ennemi était une colline qui s'élevait en pente douce. Elle était entourée presque de toutes parts d'un marais difficile à traverser et plein d'obstacles, dont la largeur n'excédait pas 50 pieds. Les Gaulois avaient coupé les passages et, confiant dans la force de leur position, ne bougeaient pas de leur colline. Rangés par cité, ils occupaient solidement tous les guets et tous les fourrés de ce marais, prêts, au cas où les Romains essaieraient de le franchir, à profiter de leur embarras pour fondre sur eux du haut de leur colline. Qui ne voyait que la proximité des deux armées croyait les Gaulois disposés à engager le combat à armes à peu près égales. Mais pour qui se rendait compte de l'inégalité des positions, leur contenance apparaissait comme une vaine parade. Les soldats s'indignaient que l'ennemi pût, à une si courte distance, soutenir leur vue, et ils réclamaient le signal du combat. Mais César leur explique ce que coûtera nécessairement la victoire. Combien de braves il y faudra sacrifier? Devant tant de résolution, quand ils acceptent tous les dangers pour sa gloire, il mériterait d'être taxé de monstrueux égoïsme si leur vie ne lui était plus précieuse que la sienne propre. Ayant calmé les soldats par ces paroles, il les ramène au camp le jour même et prend les dernières mesures pour l'assaut de la place. 20. Vercingétorix, de retour auprès des siens, se vit accusé de trahison. Il avait porté son camp plus près des Romains, il était parti avec toute la cavalerie, il avait laissé des forces si importantes sans leur donner de commandement en chef. Enfin, les Romains, après son départ, étaient arrivés bien à propos et bien vite. Tout cela n'avait pu se produire par l'effet du hasard et sans être voulu. Il aimait mieux régner sur la Gaule par concession de César que de leur en être redevable. À de telles accusations, il répondit en ces termes. Il avait déplacé le camp, c'était parce que le fourrage manquait, et eux-mêmes y avaient poussé. Il s'était rapproché des Romains, il y avait été déterminé par les avantages de la position, qui se défendait d'elle-même, sans qu'on eût à la fortifier. La cavalerie, il n'y avait pas eu lieu sur un terrain marécageux d'en regretter les services, et elle avait été utile là où il l'avait menée. Le commandement en chef, c'était à dessein qu'il ne l'avait confié à personne, par crainte que le chef désigné, cédant au désir de la multitude, ne livrât bataille, ce qui, il le voyait bien, était le vœu de tous. À cause de leur manque d'énergie, parce qu'ils étaient incapables d'endurer la fatigue un peu longtemps. Si l'intervention des Romains est due au hasard, il faut en remercier la fortune. Si elle est due à quelque indicateur, c'est à lui qu'il faut rendre grâce, car ils ont pu, de leur position dominante, juger du petit nombre et de la pitoyable valeur de ces soldats qui n'ont pas osé combattre et, honteusement, ont regagné leur camp. Il n'a pas besoin de recevoir de César, en trahissant, une autorité que peut lui donner la victoire, désormais assurée pour lui et pour tous les Gaulois. Et d'ailleurs, ce pouvoir, il le remet entre leurs mains. S'il croit lui faire plus d'honneur qu'il ne leur apporte de chance de salut. Pour vous rendre compte, ajoute-t-il, que je dis vrai, écoutez ce que vont vous dire des soldats romains. Il fait comparaître des esclaves qu'il avait pris peu de jours avant, tandis qu'il faisait du fourrage et qu'il avait soumis à la torture de la faim et des chaînes. On leur avait, au préalable, fait la leçon. Ils savaient ce qu'ils devaient dire quand ils seraient interrogés. Ils déclarent qu'ils sont des soldats légionnaires, que la faim, la détresse les ont poussés à quitter le camp en secret pour tâcher de trouver dans les champs un peu de blé ou de bétail. Toute l'armée est dans la même détresse. Chacun est à bout de force. On ne peut plus supporter la fatigue des travaux. Aussi, le général a-t-il décidé de lever le siège dans 3 jours si l'on n'a pas obtenu de résultat. Voilà, dit alors Vercingétorix, ce que vous devez à l'homme que vous accusez de trahison. Grâce à moi, sans qu'il vous en ait coûté une goutte de sang, vous voyez une grande armée victorieuse anéantie par la famine. Et le jour où, honteusement, elle fuira et cherchera un asile, j'ai pris mes dispositions pour qu'aucun peuple ne l'accueille sur son territoire. 21. La foule entière pousse des clameurs et agite bruyamment ses armes, ce qui est leur façon de faire quand ils approuvent un orateur. Vercingétorix est un grand chef. Sa loyauté est au-dessus de tout soupçon. Il est impossible de conduire la guerre avec plus d'habileté. On décide d'envoyer dans la place 10 000 hommes choisis dans toute l'armée. Estimant qu'il ne faut pas laisser au seul Biturige le soin du salut commun, on se rendait compte, en effet, que s'ils conservaient la ville, ce serait à eux qu'appartiendrait la victoire décisive. 22. À l'exceptionnelle valeur de nos soldats, les Gaulois opposaient toutes sortes de moyens. C'est une race d'une extrême ingéniosité, et ils ont de singulières aptitudes à imiter et à exécuter ce qu'ils voient faire par d'autres. À l'aide de lacets, ils détournaient les coups de nos faux, et quand ils les avaient bien serrés dans leurs nœuds, ils les tiraient avec des machines à l'intérieur des remparts. Ils faisaient écrouler notre terrassement en creusant des sapes, d'autant plus savants dans cet art qu'il y a chez eux de grandes mines de fer et qu'ils connaissent et emploient tous les genres de galeries souterraines. Ils avaient garni toute l'étendue de leurs murailles de tours reliées par un plancher et protégées par des pots. De plus, faisant souvent de jour et de nuit des sorties, ou bien ils mettaient le feu à notre terrasse, ou bien ils attaquaient nos soldats en train de travailler. À mesure que l'avance quotidienne de nos travaux augmentait la hauteur de nos tours, ils haussaient les leurs à proportion en reliant entre eux les poteaux verticaux qui en constituaient l'ossature. Ils entravaient l'achèvement de nos galeries en lançant dans les parties encore découvertes des pièces de bois taillées en pointe et durcies au feu, de la poix bouillante, des pierres énormes, et nous interdisait ainsi de les prolonger jusqu'au pied des murs. Fin de la première partie de 4 du livre 7.